le projet PEDOUL, puisqu'ensuite il sera développé certains résultats qui seront présentés, des données. Projet PEDOUL qui a été financé par la Fondation Apicil, donc on a eu cette chance d'être retenu. Et en écoutant Nathalie Honnête, je me souvenais plus qu'il y avait eu l'étape de passer d'abord devant votre commission, ensuite de passer dans une autre commission, enfin un ensemble de commissions par lesquelles nous sommes passés. Il y a quand même un parcours un petit peu du combattant, mais qui est nécessaire parce que c'est autant de phases de maturation, de réflexion, d'échange. Et alors je vais surtout mettre l'accent aussi, en parlant de ce projet, sur le caractère multicentrique. Et j'y tiens beaucoup. Je pense que c'est une énorme chance là aussi de pouvoir travailler à plusieurs centres, même si ce n'est pas toujours facile de se rencontrer, d'avoir des contacts, d'arriver à planifier des séances de travail. Mais c'est effectivement un point qui m'est particulièrement cher. Donc je vais repasser rapidement les étapes, genèse historique du projet, constat empirique partagé, parce que pendant une année, on a partagé entre nous, justement, et en particulier avec l'hôpital, avec l'équipe de Necker, tout ce qu'on observait comme ça, un petit peu tout venant, et ce que ça pouvait susciter en nous de réflexion pour construire ce protocole de recherche et pour construire les outils, enfin, ou en tout cas faire un choix dans les outils qu'on allait utiliser. Et puis, je terminerai sur, à proprement parler, ce qu'on a essayé de mettre en recherche dans cette étude qui est encore en cours, dont les résultats, je pense, apparaîtront, enfin, en tout cas, on sera dans cette phase d'analyse des données fin 2017 et puis sur 2018, mais on a déjà des premières données que nous présenterons nos jeunes chercheurs. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'est cher, c'est quelle est la relève. Et peut-être que c'est une grande question aussi dans les centres de la douleur aujourd'hui, comment on prépare cette relève. Genèse historique du projet. Alors, quand on parle de genèse, on parle de l'origine, et l'origine, souvent, elle se perd. Donc moi, j'ai essayé d'en prendre une, mais je sais très bien que ce n'est pas l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Et dans cette origine, il y a une réflexion que j'ai démarrée il y a quelques années sur les expériences précoces dans les douleurs chroniques de l'adulte, les expériences précoces traumatiques dans les douleurs chroniques de l'adulte. J'étais frappée dans la clinique d'entendre, et oui, et d'observer, parce que je pense que c'est une clinique qui, très tôt, m'a interpellée sur qu'est-ce qui était véhiculé par le patient douloureux chronique, non pas dans le verbal, mais dans le non-verbal. Et pendant tout un temps, de jeune psychologue, j'étais assez perplexe, parce que je me disais, je vois des choses, je ne sais pas qu'en faire, je ne sais pas qu'en penser. Et puis, j'ai l'impression d'avoir accumulé, au fil des années, ces observations, ces ressentis, ces éprouvés, parce que je pense que c'est pas seulement dans l'intellect qu'on les accumule, c'est aussi comment elles nous marquent, comment elles tracent en nous des restes de ces expériences. Je pense que c'est à partir de ce cumul qu'à un moment donné, j'ai ressenti la nécessité de pouvoir aller un peu plus loin à l'intérieur d'une thèse, ainsi que de partager des constats cliniques que je suis allée confronter avec ce qu'on trouvait dans la littérature. Alors, il y a quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas mis l'accent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on s'intéresse à la douleur chez l'enfant. Il y a une petite trentaine d'années. La douleur chronique, j'ai envie de dire encore moins. Et alors la douleur chronique médicalement inexpliquée, c'est carrément assez récent. Donc vous voyez, ça c'est 2011. 2012, alors dans mon jury de thèse, j'ai eu la chance d'avoir Bernard Goltz. Et vous m'avez beaucoup encouragée, et ça je vous en remercie. Donc on a eu des rencontres, et c'est comme ça que l'interface s'est faite, avec notamment l'hôpital Necker à Paris. Et puis aussi avec Chantal Delafosse à Lyon, alors à Necker avec Brigitte et puis Lisa. Et ça a été, je dis rencontre décisive parce que c'est vraiment à partir de là que a commencé à prendre forme pour moi comment prolonger une thèse, comment, j'allais dire, déplacer le curseur de la douleur chronique, de l'expérience de douleur chronique chez l'adulte vers l'enfant et l'adolescent, avec cette question, et si on se mettait en amont, qu'est-ce qu'on entendrait? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on repère dans notre clinique aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je pense qu'il y a cette dimension-là, mais aussi pour aller vers quel chemin thérapeutique, vers quelle proposition thérapeutique. Donc, en fait, l'orientation de cette recherche, j'allais dire cette thèse, c'est mieux comprendre les problématiques de douleurs médicalement inexpliquées chez l'enfant et l'adolescent, pardon, pour mieux les traiter. Alors, parmi les constats empiriques partagés, il y avait celui premier, que ces douleurs chroniques, médicalement inexpliquées, en fait, elles sont peu ou mal reconnues et traitées. Alors, c'était particulièrement vrai il y a 4-5 ans. Je suis très frappée de voir que dans la littérature, il y a eu une forme de précipitation au sens chimique du terme. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des travaux qui émergent, même si il y a une espèce de butée régulièrement qu'on retrouve dans ces articles qui est comment analyser, comment comprendre, comment identifier le contexte, les contextes, les environnements, les facteurs qui vont influencer justement l'apparition, pardon, de ces douleurs chroniques médicalement inexpliquées. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire pour rebondir aussi sur l'intervention de David Le Breton qui n'est pas là, mais effectivement, toute cette dimension contextuelle, Louise, tu en parlais aussi ce matin, me paraît fondamentale et je pense que dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de travaux qui vont sortir. Dans les autres constats, le constat, je pense que peut-être que vous faites encore, que bien souvent ces enfants et ces adolescents, eh bien, ils ont consulté X fois, hein, des consultations médicales répétées. On est même souvent surpris quand on regarde et quand on essaie de refaire un petit peu le parcours, l'histoire du soin, l'histoire de la prise en charge, de voir que ça fait déjà 4-5 ans que ces enfants sont passés dans telle ou telle consultation, voire dans tel ou tel centre. Il y a une espèce de, parfois de parcours qu'on retrouve. Là, ça serait un autre type de travaux à faire sur comment sont empruntées les filières de soins, comment elles sont utilisées par les patients, par les parents, par les familles. Donc, consultations médicales répétées, mais aussi beaucoup d'investigations paracliniques et de soins qui sont multipliés dans cette population. Alors, ce matin, l'accent a été mis sur l'importance de la démarche clinique au niveau médical, de l'importance du diagnostic. Et j'étais agréablement surprise d'entendre ce propos sur la démarche clinique, sur l'importance de revenir à l'observation clinique, notamment au niveau médical, parce que je pense qu'un des enjeux auxquels nous confrontent ces problématiques de douleurs chroniques médicalement inexpliquées, c'est effectivement un enjeu diagnostique pour ensuite aller vers un enjeu thérapeutique. Parmi les autres constats, il y a celui de l'absentéisme scolaire important, et un absentéisme qui est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas a priori, dans ce qu'on a pu retrouver, alors je ne sais pas si Michael, tu as eu le temps d'analyser un petit peu par rapport aux résultats du WISC, mais apparemment ce ne sont pas des enfants qui sont en difficulté scolaire. Et pour autant, il y a cet absentéisme. Alors, on peut le relier au fait qu'évidemment, il présente une symptomatologie douloureuse qui est invalidante et qui vient les inhiber à quelque part dans cet investissement de la connaissance et l'investissement scolaire. Et puis, autre constat qu'on a vite partagé aussi, c'est le retentissement de la problématique de douleur sur la qualité de vie de l'enfant ou de l'adolescent et de sa famille. Alors, dans cette phase préparatoire à l'étude, hein, je vous disais tout à l'heure qui a duré à peu près un an, où on s'est déplacés les uns à les autres, on s'est rencontrés, on avait un premier type de question qui était quelles données on va recueillir, pas seulement sur le plan somatique, mais aussi sur le plan psychique, et de quelle manière ? Et donc, vous voyez, dans cette question-là, fondamentalement, il y a cet enjeu diagnostique dont je parlais. Je pense que, bien souvent, on va se heurter par rapport à ce type de problématique douloureuse dans la question aussi du temps. Combien de temps faut-il passer, combien de temps il faut écouter l'enfant et sa famille. Mais on a tous fait le constat entre nous que ce sont des consultations qui sont beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'on passe grosso modo entre 1h30 et 2h pour une première consultation avec ses enfants et ses adolescents. Donc il y a vraiment cet enjeu diagnostique, à la fois de pouvoir, éliminer une cause organique, puisque la question des douleurs médicalement inexpliquées, c'est poser la question de qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre d'un substrat organique et évidemment est attaché pardon, à cet enjeu diagnostique, un enjeu thérapeutique. Donc pour essayer d'arriver à recueillir un ensemble de données que je vais vous présenter assez rapidement, on a construit un bilan complet. Alors complet, je ne sais pas s'il faut dire complet, au sens où on prétendrait à l'exhaustivité, certainement pas, mais un bilan qui est somatopsychique comme outil partagé entre les trois centres. Et puis à ce moment-là, dans cette phase-là, il y a eu la recherche d'un partenariat financier. Bon, je vous l'ai dit, on a obtenu le soutien de la Fondation Apicil. Alors, dans cette recherche multicentrique, vous avez l'hôpital Necker qui participe, l'hôpital femme-mère-enfant, la consultation de la douleur enfant-adolescent de l'hôpital femme-mère-enfant de Lyon et le centre d'évaluation et de traitement de la douleur de Saint-Étienne. Et puis, donc, on est passé dans cette phase de rédaction. Donc, il y avait déjà eu une première rédaction, je vous l'ai dit, qui a été adressée à Apicil. On a modifier certaines choses suite à cette première rédaction et je te remercie particulièrement Lisa de m'avoir aidée dans cette tâche de cette deuxième rédaction qui elle a fait l'objet d'une présentation et d'une acceptation à la commission de la direction de la recherche clinique et de l'innovation du CHU de Saint-Étienne et du CPP et obtenu l'obtention du CPP du Sud-Est. Je vais rentrer plus précisément dans l'objectif principal de cette étude, qui est de caractériser dans le cadre d'une étude descriptive et prospective, donc multicentrique, je l'ai dit, les processus somatiques, psychologiques et psychopathologiques, ainsi qu'environnementaux, qui pourraient être impliqués dans ce type de douleur. Donc on s'adresse à une population d'enfants et d'adolescents qui va de 7 à 17 ans, inclus, et qui vont présenter donc des douleurs chroniques, médicalement inexpliquées. Et vous voyez que dans cette étude, on va avoir deux grands axes de recherche. Une évaluation qui va être somatopsychique à partir du bilan dont j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas le temps de le présenter, et la réalisation de manière plus spécifique d'un bilan psychologique et psychopathologique à partir duquel on va vous présenter un certain nombre de résultats dans les interventions qui vont suivre. Je n'ai pas le temps de rentrer non plus dans tous les paramètres, toutes les variables et facteurs qui ont été étudiés, mais vous voyez qu'on a essayé de travailler sur les facteurs médicaux, psychiatriques, psychiques, comportementaux, sur les événements de vie, sur la dimension cognitive, développementale, le contexte familial, et puis quelque chose aussi de très important qui est quand on est face à un patient, à un enfant qui est douloureux chronique ou un adolescent, qu'est-ce que ça nous fait vivre et comment comment on pourrait évaluer aussi notre attitude vis-à-vis de ce patient, vis-à-vis de cet enfant ou de cet adolescent. Alors, les critères d'inclusion et de non-inclusion, vous voyez que dans les critères d'inclusion, c'est sans cause médicale avérée, on pourrait dire que c'est la définition d'une douleur médicalement inexpliquée, qui, entre parenthèses, prend suivant la littérature, là non plus je ne suis pas rentrée dans les différents articles, prend des appellations un peu différentes, mais la référence majeure, c'est la CIM, la classification internationale, bon, on est en 10 encore, oui, parce que c'était en 10 quand on l'a écrit, et le DSM-5. Donc les enfants qu'on a été appelés et qu'on continue de voir, parce que les inclusions ne sont pas tout à fait terminées, c'est soit dans le cadre des centres de la douleur, soit dans le cadre des services de pédiatrie qui accueillent des enfants ou des adolescents douloureux, chroniques. Le critère de non-inclusion, c'est la présence d'une pathologie organique, actuelle ou passée, et notamment les migraines et l'épilepsie. On a conservé les céphalées chroniques par rapport aux migraines. Pathologies qui peuvent interférer avec l'expression somatique du trouble étudié. Je vais juste insister sur le fait que le dispositif a quelque chose, alors qui n'est plus peut-être original aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus répandu, mais qui, à l'époque, quand on l'a construit, repose sur une consultation entre guillemets classique, si ce n'est que cette consultation est réalisée avec un binôme soit somaticien pédopsychiatre, soit somaticien psychologue. Et puis, vous voyez qu'en visite 3, il y a un temps particulier où l'enfant ou l'adolescent va être reçu par un doctorant psychologue pour un bilan psychologique et psychopathologique, pendant que, en parallèle, le père et la mère sont aussi reçus pour un même bilan. bilan qui est pas tout à fait, évidemment, qui repose pas tout à fait sur les mêmes outils, mais qui explore les mêmes types de facteurs susceptibles d'influencer. Je vais terminer là-dessus. Donc, la fin des inclusions et l'analyse de l'ensemble des données, je vous l'ai dit, se profile vers 2017-2018. On va vous présenter, nos jeunes chercheurs vont vous présenter les résultats portant sur différentes variables, les données démographiques et médicales avec Elise Torchman, l'apport du bilan psychologique avec Michaël Gauthier, et puis la place de l'attachement dans les douleurs médicalement inexpliquées avec Céline Maillard et Jessica Manzanares. Merci à tous dans cette équipe de Pédoule et en particulier à la Fondation Apicil.